Excellente semaine à tous et à tous, que ces jours s'annoncent vraiment sous le signe de la réussite et de la productivité pour notre auditoire.
Absolument. On espère que tout le monde est en pleine forme pour entamer cette nouvelle semaine.
Oui, et pour bien commencer, on va faire une immersion totale, une vraie plongée en profondeur dans un sujet fascinant. On va parler restauration, mais pas de la manière dont on l'imagine d'habitude.
C'est clair. On est sur un modèle qui bouscule complètement les codes traditionnels.
Exactement. Alors, on se base sur un guide stratégique tout frais, publié aujourd'hui même, on est ce jeudi 10 septembre 2026, sur la plateforme d'entrepreneuriat monprojet.ma.
Un guide très pointu d'ailleurs.
Très pointu, et il cible particulièrement la jeunesse marocaine, ceux qui sont ambitieux, hyper connectés et qui sont prêts à disrupter le marché de la restauration.
C'est un peu le manuel de survie et de succès pour cette nouvelle génération d'entrepreneurs.
Voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. On va analyser la mécanique des fameuses dark kitchens ou cuisines fantômes au Maroc. On va regarder les vrais coûts, les marges et surtout essayer de comprendre pourquoi la cuisine marocaine revisitée est le créneau numéro un cette année.
C'est un programme chargé. Mais avant de parler d'investissement ou de recettes magiques, il faut vraiment comprendre pourquoi ce marché attire autant de convoitises en 2026. Faut regarder les chiffres, en fait.
Ok. Décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le marché en ce moment?
Bah, le guide de monprojet.ma donne des chiffres qui donnent le tournis. Le chiffre d'affaires de la food tech au Maroc a franchi la barre des 2 milliards de dirhams en 2025.
2 milliards! C'est énorme!
C'est massif et c'est porté par une croissance annuelle de plus de 20% depuis 2023. Et le moteur de tout ça, c'est tout simplement que plus de 85% de la population a un smartphone dans la poche aujourd'hui.
Donc le geste de commander à manger, c'est devenu aussi naturel que genre envoyer un message ou scroller sur les réseaux.
Exactement. Et c'est là qu'intervient le concept de la dark kitchen. En gros, c'est un atelier de production culinaire, mais, et c'est la clé, sans aucune salle de restauration. Tout est pensé uniquement pour la livraison.
C'est fou quand on y pense. Moi, je vois ça un peu comme le cloud computing, mais appliqué à la nourriture. Tout se passe en coulisses. On n'a plus ces charges fixes classiques, le loyer exorbitant en centre-ville, la déco de malade, les serveurs.
C'est exactement ça. On supprime le superflu pour se concentrer sur la chaîne de production et la logistique. Et le public visé, ce sont les jeunes actifs urbains entre 22 et 40 ans.
Ceux qui bossent à Casa, Rabat, Tanger, Marrakech, quoi.
Ah, les familles modernes aussi, et les expatriés qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner le soir.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que, je veux bien, l'aspect technologique est au point. Mais, et c'est là que je bloque un peu, si la cuisine de nos mères et grand-mères est sacrée au Maroc, pourquoi quelqu'un voudrait commander un tagine ou une tangia en ligne pour le manger seul dans une boîte en carton au lieu d'aller dans un vrai resto traditionnel?
Ce qui est fascinant ici, c'est ce qu'on appelle en économie le vide concurrentiel.
Ah, un vide concurrentiel, c'est-à-dire...
En fait, si on regarde le marché de la livraison ces dernières années, il est totalement saturé par la fast-food. Si on ouvre une application, c'est une avalanche de tacos, de burgers, de sushis. C'est rapide, c'est efficace, mais c'est standardisé.
Oui, on a vite fait le tour.
Voilà. Et d'un autre côté, on a les restaurants traditionnels marocains, qui font une cuisine merveilleuse, mais qui sont totalement inadaptés à la livraison. Leurs temps de préparation sont longs, c'est pas fait pour être mis dans un sac à dos de coursier.
Oh mon Dieu, sans parler des emballages, hein. On a tous connu le drame de la sauce du tagine qui coule dans le sac plastique pendant le trajet en scooter.
Ah bah c'est un carnage, oui.
Un désastre esthétique et gustatif total.
Et c'est précisément là qu'est l'opportunité de 2026. L'idée de la dark kitchen marocaine, c'est de combiner l'authenticité des recettes traditionnelles avec des portions modernes et surtout un packaging éco-responsable.
Genre des boîtes compartimentées où la sauce ne touche pas la semoule avant qu'on le décide.
Exactement. Le plat arrive intact, il est beau, il donne envie, il est instagrammable, comme on dit. Ça répond à un vrai besoin de manger local, de manger réconfortant, mais avec la praticité du e-commerce.
D'accord, je vois mieux l'océan bleu que ça représente. C'est là que ça devient vraiment intéressant côté business. Du coup, si on plonge dans le vif du sujet, la question de l'argent, le guide propose deux scénarios d'investissement, c'est ça?
C'est ça. Le document est très bien fait car il sépare vraiment deux approches. D'abord, on a le scénario starter.
Le modèle de base pour se lancer.
Voilà. On parle d'une cuisine compacte, entre 40 et 60 mètres carrés. Et là, l'investissement initial est estimé entre 150 000 et 300 000 dirhams.
Ce qui n'est pas si énorme pour ouvrir un restaurant, entre guillemets.
C'est même très faible. Et les objectifs sont super réalistes. le guide, table sur 30 à 50 commandes par jour, avec un panier moyen d'environ 55 dirhams.
Ok. Et ça donne quoi en termes de rentabilité, du coup?
Eh bien, la marge nette se situe entre 18 et 22%, ce qui nous amène à un bénéfice net mensuel estimé entre 9 000 et 18 000 dirhams.
Ah oui, pas mal. Et on amortit l'investissement en combien de temps avec ces chiffres?
Le délai de rentabilité est estimé entre 10 et 16 mois, ce qui est extrêmement rapide dans le milieu de la restauration classique.
Mais attendez, il y a un truc qui me chiffonne. J'ai lu dans le même guide que les plateformes de livraison prennent une sacrée part du gâteau.
Ah, les fameuses commissions.
Voilà, voilà. Les Glovo, Jumia Food et compagnie, ils prennent entre 15 et 25% sur chaque commande. Payer 25% de commission, c'est comme louer un emplacement premium dans un centre commercial virtuel. C'est exorbitant. Comment on peut dégager 20% de marge nette si l'appli nous prend déjà un quart du prix?
C'est une excellente question, et c'est souvent là que les gens font une erreur de calcul. En fait, dans une dark kitchen, la structure des coûts n'a rien à voir. Vous n'avez pas de serveur à payer, pas de loyer de malade sur un grand boulevard.
Donc on déplace l'argent en quelque sorte.
Exactement. L'argent que vous ne mettez pas dans la salle de restaurant, vous le mettez dans l'acquisition client numérique, c'est-à-dire la commission de la plateforme. Et souvent, les prix sur les applications sont légèrement majorés par rapport à de la vente à emporter classique pour absorber une partie de ce coût.
Ah, malin. Bon, ça, c'était le scénario starter. Mais le guide parle aussi d'un scénario avancé. Et c'est là que ça m'a vraiment bluffé. On est sur de la multimarque.
Oui, là, on passe à la vitesse supérieure. On parle d'un local de 80 à 150 mètres carrés, avec un investissement qui va de 600 000 à 1,5 million de dirhams.
Et le concept, c'est de lancer simultanément trois restaurants virtuels différents, mais depuis la même cuisine physique. C'est dingue. Moi, j'appelle ça être un ventriloque culinaire.
Un ventriloque culinaire, c'est une belle image, oui.
Bah oui. On a une seule voix en cuisine, un seul chef, mais plusieurs identités sur les applications. Genre une marque spécialisée dans les tagines, une autre qui fait des bols santé et une troisième pour des desserts fusion.
C'est exactement ça. Et si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est ce qu'on appelle l'optimisation par la mutualisation des coûts.
C'est-à-dire ?
C'est très simple. Vous payez un seul loyer, vous avez une seule équipe de plonge, un seul manager, une seule facture d'électricité, mais vos revenus sont multipliés par trois, parce que vous touchez trois cibles différentes sur les applications.
Donc on ne fait pas trois fois plus d'efforts en cuisine?
Non, parce que les ingrédients de base se recoupent. Le poulet rôti du tagine peut être effiloché pour le bol santé du midi. C'est une mécanique de précision. Et grâce à ça, la marge nette peut grimper jusqu'à 28%.
Waouh! Et les bénéfices mensuels?
Avec un volume de 100 à 200 commandes par jour sur l'ensemble des marques, on parle d'un bénéfice massif situé entre 43 000 et 109 000 dirhams par mois, avec un retour sur investissement de 40 à 65% par an.
Ah ouais, là on est sur de la vraie rentabilité d'entreprise tech, mais appliquée au fourneau.
Totalement. Mais il y a un revers à la médaille.
La jungle des plateformes, j'imagine. Parce qu'avoir une super cuisine secrète ultra optimisée, ça ne sert absolument à rien si personne ne sait qu'elle existe.
Voilà. Le nerf de la guerre. Comment on attire l'attention quand on n'a pas de vitrine sur la rue, quand on ne peut pas compter sur les passants?
Le guide consacre une grosse partie au marketing d'ailleurs. Et devinez quoi? TikTok et Instagram sont les rois de la fête.
Évidemment! La vidéo courte est devenue vitale.
Mais ce qui est intéressant, c'est la méthode. Il ne s'agit pas juste de mettre de jolies photos lisses. Les gens veulent voir les coulisses. Le guide recommande de montrer les recettes en accéléré, la vapeur qui s'échappe des marmites, le dressage impeccable dans les fameuses boîtes éco-responsables.
Il faut créer l'envie. Il faut que ce soit sensoriel, presque tactile à travers l'écran. Et il y a aussi une astuce très classique, mais redoutable, sur la tarification.
Et les fameux prix psychologiques terminant par 9.
Les plats à 49 ou 69 dirhams.
Exactement. Sur un écran de smartphone, la décision d'achat se prend une fraction de seconde, de manière très impulsive. Et le 49 dirhams passe beaucoup mieux que le 50. Et pour se faire connaître au niveau local, le guide parle aussi des partenariats avec les micro-influenceurs. C'est fini l'époque où on payait une fortune ou une star de la télé. Là, on vise les influenceurs qui ont, disons, entre 5 000 et 50 000 abonnés.
Oui, parce que leur audience est hyper locale et engagée. Si un influenceur de Casablanca montre à ses abonnés de Casablanca un plat livré fumant chez lui en 20 minutes, l'impact est immédiat. C'est chirurgical.
Mais, et c'est un gros mais, on en revient aux applications de livraison. Si on cartonne, on se retrouve à payer ces fameuses commissions écrasantes sur un volume énorme.
Cela soulève une question importante, la dépendance technologique. C'est le plus grand piège des dark kitchens. Vous construisez votre business sur un terrain qui ne vous appartient pas.
Alors comment on s'en affranchit ? Parce que le guide donne une vraie stratégie pour ça.
Oui, et c'est une stratégie en deux temps. Au début, on n'a pas le choix. On utilise la force de frappe des plateformes pour l'acquisition de clients. Elles ont l'audience, c'est comme ça. Mais l'objectif, c'est de créer très rapidement son propre site web de commande.
Et comment on force les gens, enfin comment on les incite à changer leurs habitudes et à utiliser notre site plutôt que leur appli préférée ?
Par le packaging, encore une fois. Le client reçoit sa commande Glovo, par exemple, et à l'intérieur, il trouve un beau flyer très premium. Dessus, il y a un QR code et un message clair. Pour votre prochaine commande, passez par notre site web et on vous offre 15% de réduction ou un dessert.
Ah, on achète sa loyauté. On rogne un peu sur la marge une fois pour économiser les 25% de commission à vie. C'est brillant.
C'est indispensable pour survivre à long terme. Mais attention, le guide pointe un autre risque majeur lié à ce format numérique. Le contrôle qualité.
Oui, parce qu'il n'y a pas de salle. Dans un restaurant normal, si un plat tarde un peu ou s'il y a un souci, le serveur vient, il s'excuse, il offre un café. Le côté humain rattrape l'erreur.
Exactement. Dans une cuisine fantôme, votre seule interface avec le client, c'est la boîte qui s'ouvre sur sa table de salon. Si ça a coulé, si c'est froid ou s'il manque la sauce, c'est fini.
Pas de filet de sécurité. La sanction tombe directe.
C'est ça. C'est l'avis à une étoile sur l'application, sans possibilité de s'excuser en direct. C'est pour ça que la rigueur en cuisine doit être quasi militaire.
C'est implacable. C'est aussi pour amortir ces chocs du début que le guide insiste sur le fait d'avoir au moins 3 mois de fonds de roulement de côté, non ?
Absolument. Il faut une trésorerie solide pour absorber les erreurs de lancement, les ajustements de recettes et les premières campagnes marketing avant d'être à flot.
Bon, alors disons que le financement est compris, on a vu les pièges, on a vu le marketing. Concrètement, pour un jeune qui lit ce guide ce matin et qui veut se lancer, par quoi il commence demain matin ?
Le guide propose une feuille de route sur 5 mois.
Oui, un calendrier d'action très précis.
Et le mois 1, il est entièrement consacré à la paperasse, au légal.
Et d'ailleurs, le document souligne à quel point la bureaucratie s'est simplifiée grâce au portail numérique du gouvernement. Ça rend l'entrepreneuriat beaucoup plus accessible pour cette jeunesse ciblée par monprojet.ma.
C'est vrai, les démarches sont facilitées. Pour le scénario starter, le statut d'auto-entrepreneur fait largement l'affaire au début, tant que le chiffre d'affaires des services ne dépasse pas le plafond légal de 500 000 dirhams.
Et si on part direct sur le scénario multimarque ?
Là, on passe en SARL ou en SAS. Mais attention, même si les démarches sont numériques, notamment via la plateforme rocas.ma, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi.
Oui, parce qu'on demande une autorisation sous la mention « Atelier de préparation et livraison des repas », c'est ça ?
C'est ça. Et bien que tout soit numérisé, la procédure exige des documents très stricts. On a beau faire une cuisine fantôme et vendre sur Internet, ça nécessite une rigueur bien réelle dans le monde physique. Il faut un plan d'aménagement signé par un architecte.
Un architecte ? Juste pour une cuisine sans client ?
Oui, pour le circuit d'extraction d'air, la gestion des déchets, la séparation entre le circuit propre des aliments et le circuit sale, l'État ne rigole pas avec l'hygiène.
C'est logique en même temps. Du coup, ça nous amène au mois 2 et 3 de la feuille de route, la logistique pure.
Voilà. C'est là qu'on cherche le local. Pas besoin d'une avenue passante, on l'a dit. Une zone industrielle, une ruelle avec un loyer modéré, ou même en sous-sol, du moment qu'il est bien ventilé et validé par l'architecte.
C'est aussi le moment de recruter la brigade, le chef, les commis, et de sourcer les produits chez les fournisseurs locaux, j'imagine.
Tout à fait. Et une fois que les murs sont debout et que l'équipe est là, on attaque les mois 4 et 5, la dernière ligne droite.
Le lancement. Enfin, le prélude au lancement. L'identité de marque, le fameux branding.
C'est ça. Pendant que l'UNSAS, l'Office de sécurité sanitaire, vient faire ses contrôles d'hygiène obligatoires, on s'occupe de l'image.
Le shooting photo des plats, hyper important. On l'a vu.
Le teasing sur Instagram aussi. On lance des comptes à rebours. Plus que 10 jours avant de goûter le tagine 2.0, on fait monter la sauce, si je puis dire.
Joliment dit. Et il y a aussi l'organisation de soirées de dégustation, en physique cette fois, pour les influenceurs, pour qu'ils soient prêts à poster le jour J.
Exactement. C'est une mécanique d'horlogerie où chaque étape du calendrier prépare la suivante.
Franchement, en synthétisant tout ça, l'idée maîtresse est hyper claire. Associer le patrimoine culinaire marocain aux technologies de livraison en 2026 via ce format Dark Kitchen, c'est une formule redoutable.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On a une flexibilité maximale, des charges fixes qui sont réduites à néant par rapport à un resto classique, et on touche une clientèle qui ne demande que ça.
C'est un modèle d'optimisation extrême, pensé pour la rentabilité, la livraison rapide, les portions individuelles calibrées au gramme près. Tout est rationalisé. Mais ça m'amène à une réflexion un peu différente, presque sociologique.
Ah, je vous écoute.
Eh bien, réfléchissons une minute à ce qu'est traditionnellement la cuisine marocaine. Elle est mondialement célèbre, mais pas seulement pour son goût. Elle est célèbre pour sa chaleur humaine.
Le grand plat au centre de la table, le pain qu'on partage.
Voilà. Le repas est un événement social. C'est l'hospitalité, c'est le temps qu'on prend ensemble. Mais si l'avenir de cette cuisine bascule vers cette consommation numérisée?
Une consommation solitaire, en fait.
C'est ça. Seul devant son ordinateur, avec un repas enfermé dans du carton, aussi éco-responsable soit-il, si la quête de rentabilité nous pousse vers ça, que perdons-nous du tissu social et culturel marocain?
C'est une vraie claque, vue comme ça. On gagne en efficacité logistique, on sauve peut-être les recettes traditionnelles de l'oubli chez les jeunes actifs, mais on ampute le rituel de toute sa dimension collective.
Est-ce que l'âme de cette gastronomie peut survivre si on lui enlève le partage physique? C'est une vraie question ouverte.
Et c'est une excellente question pour conclure, une réflexion que l'on laisse en suspens pour nourrir l'esprit critique de notre auditoire. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie, cette immersion sur nos ondes aujourd'hui.
Merci à vous.
On espère que ce décryptage de la restauration de demain vous a donné des clés pour comprendre ou même pour vous lancer si vous avez l'âme d'un entrepreneur. Gardez votre esprit d'initiative bien aiguisé et à très bientôt pour une nouvelle analyse.